Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Bonjour Rabia.
Bonjour Myriam.
Je reçois aujourd'hui Rabia Henkel, fondatrice et dirigeante de Courtoisie Urbaine. Quel joli nom, franchement, surtout que, bon, peu de courtoisie dans nos métiers.
Tel que je l'entends, en tout cas, oui, il y a encore un peu de travail.
Il y a encore un peu de travail. Et puis, il y a un petit côté désuet dans le mot courtoisie qui nous rappelle le bien fondé de regarder les autres, de s'occuper des autres. Hein. Est-ce à dire que la manière dont ces deux mots ont été accolés, c'est ça l'ADN ?
Oui, c'est vraiment ça, la courtoisie, je sais pas, c'est un peu plus que la politesse. Elle est un peu plus structurée, plus organisée, elle est très consciente. Et je pense que courtoisie et expertise, ça ferait des super beaux projets pour les villes et les sociétés.
Donc, la courtoisie urbaine a été créée il y a à peu près 10-12 ans.
C'est ça.
Et quel est le fil conducteur ? C'est quoi la genèse d'une telle entreprise ? C'est une grosse entreprise quand même. Au bout d'un moment, le fait de vouloir gérer ces deux mots.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est vraiment à l'issue d'un parcours de maîtrise d'ouvrage privé. Donc, j'ai passé une dizaine d'années chez un opérateur. Qui faisait des belles choses, donc le groupe Brémond, on avait des très belles intentions éthiques, exigeantes, etc. Mais il nous manquait quand même un larron, qui était quand même très important, qui était le destinataire en fait de l'ouvrage.
C'est-à-dire c'était toujours des bureaux en blanc.
Les logements, surtout, on faisait essentiellement des projets résidentiels, mais il manquait un peu la communauté habitante à laquelle était destiné l'immeuble collectif. Et il y avait aussi beaucoup d'arbitrage qui était un peu, pour moi, assez hors sol.
Trop radical.
Oui, c'était un peu basé sur du conseil, donc des mots et tout ça, qui étaient motivés par des belles intentions. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on était en décalage entre les attentes et ce que les citoyens étaient capables de transcrire et les modes d'habiter. Je trouvais qu'on était très en décalage et on faisait beaucoup ce que j'appelle moi l'autosociologie. Ça m'intéresse pas, donc ça n'existe pas. Ouais. Et c'était assez réducteur après. Et ça empêchait des très beaux projets d'aboutir.
Est-ce que c'est pas comme ça parce que justement les maîtres d'ouvrage privés, les promoteurs, quand ils font du logement, ils ne connaissent pas a priori le destinataire final. Donc, on a une certaine idée de la chose et puis les architectes ont une autre idée de la chose.
C'est ça.
Et puis quand même, à un moment donné, les architectes sont contraints, parfois, par les maîtres d'ouvrage privés qui leur donnent des leçons de mètre carré, puisqu'on a eu quand même à un moment donné l'idée de faire des T3 à 53. Qu'est-ce qui fait que...
Vous voyez là, tous ces habitus en fait qui c'est très rassurant pour les opérateurs privés parce que ils voient le ménage à qui est destiné l'appartement juste comme une capacité financière.
Il s'agit d'un produit.
Voilà,
n'est-ce pas?
Un produit prêt.
C'est pas un logement, fini, c'est un produit.
Voilà, assez fini, prêt à être habité, ce qui est quand même assez réducteur. De plus, je pense que ça les rassure, ça rassure de faire comme les copains. Parce que on ne prend pas de risque, quitte à travailler tous pour 10% des besoins. Si je prends une photographie, quand j'ai quitté, en tout cas en 2011-2012, ce qui était la maîtrise d'ouvrage, j'ai envie de dire qu'elle évolue quand même dans le bon sens, mais quand je l'ai quitté, c'était assez rade et pâquerette.
Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, de par les villes, de par certains acteurs publics ou même privés, bien sûr, l'obligation, hein, d'être dans la médiation, d'être dans la discussion avec les futurs habitants, de préfigurer certains projets pour pouvoir justement avoir un certain assentiment, pas total, parce que... donc ce tricotage, il s'est fait quand même les 10 dernières années.
Tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il y a la dimension territoriale et l'ancrage, et qu'en fait, habiter, c'est aussi habiter le territoire, c'est aussi rejoindre en fait un projet de territoire, c'est aussi s'inscrire dans une stratégie. Quartier, d'ouverture, etc. C'est vrai que nous, on l'a vu hein, entre 2012, quand Courtoisie Urbaine a été créée, et aujourd'hui, ce qui était innovant et qu'on proposait un peu est devenu une demande. Donc c'est vraiment assez chouette parce que ça nous challenge aussi. C'est aujourd'hui, on passe de la transaction au récit, vraiment. Donc c'est pour ça que on peut pas dire que c'est généralisé. Moi, j'aimerais qu'il y en ait plusieurs comme nous qui travaillons sur ces sujets-là. On reste quand même un peu, mais c'est une niche un peu qui se diffuse. Et voilà, aujourd'hui, il y a une vraie attente là-dessus. Les maîtres d'ouvrage publics et privés sont assez en demande aussi. De mettre un peu de sens social et le capital humain d'un projet immobilier. Voilà.
Alors, c'est aussi parce que les projets, souvent, aujourd'hui, de construction de logements, sont des projets mixtes, où on a cette appropriation du programme social, privé, LLI, LLS, PLS, etc. Je ne vais pas rester dans les acronymes, mais c'est vrai que du fait de la mixité d'usage, il y a une mixité évidemment de population, et donc il y a une mixité sociale extrêmement importante, donc la nécessité d'avoir ce lien, de créer quand même ce lien avant que l'immeuble soit construit.
Exactement, c'est-à-dire cette mixité, elle ne se décrète pas. Je pense qu'il ne faut pas juste, voilà, on va mettre dans un bocal des gens qui ont eu des parcours résidentiels tous très différents, qui ont des attentes très différentes, parce qu'il ne s'agit pas de lisser les ménages, il s'agit juste de stimuler en fait leur capacité à se connecter. Et c'est vrai, nous, c'est exactement ce qu'on raconte, et aujourd'hui, on a des retours d'expérience, donc on a réalisé, c'est pas un concept dont je parle. Notre projet à Nanterre, par exemple, il y a une très très grande mixité programmatique, donc des profils et des parcours sociaux, des nouveaux arrivants sur le territoire, des gens qui sont déjà là, des profils, ça va d'emploi très 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 modeste à des catégories sociales qui frôlent un peu le capital, la défense, etc. Et ce qui était fabuleux, c'est que pendant le chantier, on a proposé à ces ménages de venir se connecter les uns aux autres, porter un nom commun.
Il est connecté numériquement ou
non, en présentiel. En présentiel.
Que le mot connecté aujourd'hui peut être très ambivalent.
Non, se connecter vraiment au sens je t'ai
en
vu
vrai.
Et
ouais.
tu m'as vu.
Ouais.
et vraiment, c'est des gens. Il y en a qui ont acheté vraiment dans une bulle de vente d'une façon. Enfin, il y a pas, ils ont pas. On n'est pas sur de l'habitat participatif ou sur des choses vraiment consciemment très participatives. Et moi, j'ai vraiment admiré. On avait des gens qui venaient vraiment d'autres territoires, du 94. Qui prenaient le RER pour venir le soir travailler avec nous en atelier, échanger avec leurs futurs voisins. Du coup, ça donne aussi un peu un crédit humain au chantier où il se passe pas grand chose pour eux, à part les appels de fonds. Et donc, et ça a marché. Donc, on avait entre 60 et 80 ménages qui viennent prendre ce qu'on leur propose dans les ateliers et porter vraiment une ambition à habiter ensemble, à mettre en commun, parce qu'il y a toujours de l'en commun dans des histoires comme ça.
Est-ce que ça permet aussi de développer du prêt à finir, hein? Parce que aujourd'hui, quand on discute avec les promoteurs et on suggère de faire du prêt à finir juste pour prendre simplement l'évier qui finit à la benne parce que on en met partout et que ça plaît pas aux futurs locataires ou copropriétaires, on a du mal à faire passer ce message du prêt à finir, alors que le prêt à finir peut être un engouement extraordinaire à la fois pour la copropriété ou pour le fait d'habiter vraiment le lieu.
Alors nous, le prêt à finir, vraiment, on arrive à le faire sur les communs. Alors, ouais. je ne parle pas des communs ouais. ordinaires, type ouais. les locales ouais. villes, je parle ouais. vraiment d'espaces autres qui amplifient vraiment la copro et l'espace commun. Le prêt à finir sur les logements, je vais être aussi sincère, on n'y arrive pas parce qu'en fait, il y a un engouement, mais quand on arrive au final...
Ça marche pas, ouais.
Bah, en fait, finalement, l'opérateur reste quand même plus compétitif que... Par contre, la co-conception, c'est-à-dire de finir et d'ajuster le logement avec le futur acquéreur, ça marche extrêmement bien. Il y a une vraie attente là-dessus. On l'a fait à Nanterre avec le groupe Lamotte sur une vingtaine de logements.
D'accord.
Ça a été vraiment un succès.
Mais à petite échelle.
Je pense là, la petite échelle, c'était une prudence de notre part. Mmh. Je pense que ça peut être amplifié. Et en ce moment, sur Besançon, donc une petite ville, enfin une grande ville là-bas, mais que ça reste quand même une petite métropole. Là, on fait de la co-conception aussi. Donc, on démarre. Et là, c'est assez intéressant
et
de
alors
voir
comment on
l'intérêt
fait pour,
des ménages.
Justement, quand on fait de la co-conception... on ne peut pas aller au-delà de la réglementation
non,
PMR.
Bien sûr.
Donc, ça veut dire qu'on donne quand même des contraintes.
Hein. Alors, c'est là où l'opérateur, vous savez, l'opérateur, chez le maître d'ouvrage, il y a beaucoup d'intelligence et d'agilité juridique. Si la question est bien posée, si leurs chakras sont bien ouverts.
Ouais.
Soyons vraiment. Enfin, voilà, c'est pour ça que. Enfin, voilà, est-ce que ça se généralise? Ça reste à questionner.
Ouais.
Ça demande une grande complicité avec l'architecte. Et ça fonctionne. Parce qu'on se complète énormément, nous, entre la méthode et le maître d'ouvrage avec le juridique et l'architecte avec les endroits pertinents
voilà.
pour faire ça.
Où on peut toucher aux cloisons,
c'est ça.
Regarder, parce qu'en fait...
Et il y a beaucoup à faire.
Ouais. Et pourtant, on nous contraint, nous architectes, souvent dans des logements types, dans des il faut faire ci, il faut faire
tout
ça.
Tout le temps, les gens n'en veulent
voilà.
pas.
Ouais, exactement. Alors justement, cette idée de du modèle, comment fait-on pour le décloisonner? Le
par
modèle
juste,
du logement type.
Eh ben, en fait, juste par la méthode de faire, travailler autrement, avec les mêmes acteurs, mais on recommence pas comme d'habitude.
Ah là 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 là, je crois entendre quelque chose comme répit entre
oreilles. On prend les mêmes mais on recommence pas.
Voilà, donc ça c'est une jolie histoire. Je pense qu'on est prêt pour une deuxième interview, non? Nous
Avec
allons
plaisir.
Continuer.
Ok.
Merci, Ravia, et à bientôt
Merci
sur
bien
nos
bien.
Antennes.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.